Sobeuz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Marie Poulenges.
Bonjour.
Marie Poulenges, vous êtes altiste, mais vous êtes aussi directrice artistique d'un jeune festival qui s'appelle le 8 de Montcabrier. Montcabrier, où se trouve Montcabrier?
Alors Montcabrier, c'est un petit village, un village médiéval qui est à 40 km de Cahors dans le Lot. Voilà.
Donc cette année, c'est la 5e édition.
Exactement.
Qui va se dérouler donc du 30 juillet au 4 août. On y entendra du Vivaldi, du Tilleux, du Mozart, du Mendelssohn et plein d'autres choses. Vous allez nous détailler un petit peu tout ça.
Ouais.
Préciser que vous êtes altiste, pas juste toute seule parfois, vous êtes aussi avec l'Orchestre de Paris.
Absolument. Ouais.
Qu'est-ce qui pousse une musicienne à se lancer comme ça dans un festival, à une période en plus où c'est vrai que si le disque vit un petit peu une crise, festival, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment on décide de se lancer dans cette aventure et au point vraiment chaque année d'essayer de passer un cap supérieur?
Alors en fait, on se décide comment? Je suis musicienne à l'Orchestre de Paris depuis 15 ans, mais à côté de ça, j'ai fait beaucoup de musique de chambre. Et il y a donc quelques années, j'étais membre d'un quatuor à cordes Timos. Qui s'appelait le quatuor Timos. Et nous avons eu besoin, évidemment, de nous réunir l'été pour travailler des programmes en vue de concerts. Et un été, au cours d'une période de travail, on s'est dit pourquoi on ne roderait pas notre programme dans l'église du coin, puisque c'était la région natale. Hein, c'est la région natale de mes parents et de ma famille. Donc on s'est dit, profitons de cette belle église, testons une petite soirée comme ça. Donc nous avons fait un concert, l'acoustique qui est magnifique, et puis c'est avéré que les gens du village sont venus nous écouter, et on s'est dit à l'issue de ça, mais c'est dommage, il faut peut-être profiter quand même de ce lieu, essayons un petit peu d'officialiser les choses, et puis de faire une manifestation un petit peu plus... un petit peu plus large, un petit peu plus riche. Donc on a monté une association et on s'est lancé dans la dynamique du festival avec 3 concerts les premières années. Et cette année, on est à 4 concerts plus un 5e concert qui sera exporté au château de Bonaguil à côté, dans les remparts du château. Donc on est dans une époque où c'est pas simple d'organiser tout ça, mais on y croit. Et puis ça marche parce qu'on a une équipe très large de bénévoles, un village qui est à fond avec nous, qui accueille tous les artistes. Donc les artistes sont logés chez les gens du coin, chez les locaux, ce qui fait qu'on n'a pas de frais de nuitée dans les hôtels, etc. Si on n'avait pas ça, très sincèrement, on n'y arriverait pas, hein, parce qu'on n'a pas les financements pour. Donc c'est un festival un peu artisanal de bric et de broc, mais qui en tire sa richesse, je crois, justement, de par ce côté... d'entraide.
La direction artistique, dès le début, vous aviez une feuille de route précise par rapport à la politique éditoriale que vous vouliez mener?
Alors,
ou ça se fait progressivement un peu plus chaque année?
Ça s'est fait progressivement. Au départ, je voulais... c'est vrai que le Quatuor Timos, nous programmions beaucoup. Ensuite, moi, j'ai pris la décision d'arrêter ce quatuor pour pouvoir justement me consacrer un petit peu plus au festival, à sa préparation tout au long de l'année. J'avais envie d'une programmation ce qui est, on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure dans la programmation de cette année, mais une programmation variée, éclectique. J'ai pensé, dans les premières années, inviter des artistes toujours différents. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une base, qu'il y avait d'une part les artistes qui venaient, qui étaient enchantés, qui me disaient « Mais alors, on est virés, on ne revient pas l'année prochaine, il faut que tu nous réinvites. »
Une addiction.
Voilà, il y avait vraiment... Parce qu'il y a eu des rencontres avec les gens qui habitent dans le coin, etc. Donc ça, c'est très chouette. Et du coup, je me suis rendu compte que le public il attendait un peu les deux choses, c'est-à-dire à la fois du nouveau. L'année dernière, on a fait une programmation autour de la musique ancienne avec viol de gambe, clavecin. Ça a été vraiment une découverte pour certains qui m'ont dit « Je n'avais jamais vu cet instrument, la viol de gambe, je ne savais pas que ça existait, le clavecin non plus. » Donc, j'ai ce désir-là et en même temps, les gens sont contents. Je crois que c'est l'esprit festival, ça. Mais de retrouver, je pense à Ichi Chijiwa, qui est un violon solo de l'Orchestre de Paris, qui lui, ben vraiment, les gens l'attendent chaque année, quoi. C'est un violoniste magnifique, bien sûr, mais espèce de côté un peu plus familier. Je crois que le public est content de retrouver les artistes année après année, tout en rajoutant, évidemment, de nouveaux artistes chaque année. J'en rajoute à peu près 4-5 de nouveaux tous les ans pour permettre au public d'avoir un maximum de propositions musicales.
J'imagine ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez entre l'Orchestre de Paris et ce festival, un peu les deux extrémités de la ligne. C'est-à-dire d'un côté à Paris, une salle, des habitués, des abonnés, des gens qui sont au fait de la musique dite savante. Oui. Et de l'autre côté, des gens qui vont à un festival qui parfois, bon, vous avez dit, ne connaissaient pas la viol de gambe, mais j'imagine que pour certains, c'est peut-être parfois les seuls concerts classiques ou leur rare contact avec la musique classique. Voilà. Comment justement on vit un peu cet angle, cette vision à 360 degrés ?
Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, évidemment, on a un public qui est parfois complètement néophyte, qui ne connaît pas le monde, on va dire, de la musique classique. Mais c'est ça qui m'intéresse quelque part. C'est ça qui m'intéresse, c'est s'insérer dans un lieu où il y a peu de propositions culturelles tout au long de l'année. L'été, il y a plus de choses, bien sûr, parce que c'est une belle région et qu'il y a des concerts qui fleurissent un petit peu partout.
C'est un souci, ça, justement, de se dire que parfois, certaines régions, votre festival en est un exemple, mais il y a d'autres festivals dans d'autres régions. Effectivement, l'été, tout à coup, il y a un festival, donc il se passe plein de choses, puis après, en gros, on ferme jusqu'à l'été suivant, que le reste de l'année soit un peu laissé comme ça.
Je trouve que c'est fort dommage. C'est fort dommage. Maintenant, c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est cet aspect d'apporter quelque chose, évidemment. Ça, j'ai senti maintenant dans mon cabrier, on parle de la semaine du 8, c'est devenu quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire du coin. Moi, ça me plaît bien, effectivement. Et puis, ce qui me plaît surtout, c'est que je sens mon public, que je commence à le connaître et que je communique avec lui. Et donc, le dernier soir, notamment, on a un grand repas qui se fait à la pause. En fait, on a un espèce de concert, deux concerts en un, où on se réunit sur la place et tout le monde mange ensemble, artistes, publics, bénévoles. Moi, je trouve ça, en tant que musicienne, beaucoup plus enrichissant que, on va dire, parfois l'anonymat des grandes salles parisiennes, où certes, la salle est remplie, mais on ne connaît pas notre public, on n'est pas là. Moi, ça, c'est un aspect qui me plaît beaucoup.
C'est aussi un moyen de désacraliser, mais au sens noble du terme, le concert classique avec tous les clichés qui vont autour et qui parfois rebutent certaines personnes. Non, je peux
et,
pas
et
accéder
c'est aussi,
à ça.
Voilà, c'est un moyen de désacraliser et en même temps, je trouve que par ce moyen-là, on apporte aussi peut-être une musique ultra sérieuse, voire contemporaine. Vous verrez, dans ma programmation, il y a souvent des touches de composition du XXe siècle, voire des compositeurs actuels. Et je sais que j'ai pu proposer à mon cabrier des choses absolument... Je me disais, ça va peut-être être difficile pour les auditeurs. Et en fait, avec une présentation, en dialoguant aussi avec le public, en leur expliquant le pourquoi du comment un petit peu, j'ai vraiment eu parfois des commentaires après la soirée qui étaient sidérants parce que les gens étaient enthousiasmés par les 5 pièces de Webern ou par une pièce de Ligeti ou de Messiaen.
Parfois, le public est moins conservateur que certains producteurs de concerts.
Mais oui, complètement. Je crois qu'on se trompe parfois sur la possibilité de réception du public.
Thank you.
Alors, la première soirée, le 30 juillet, qui s'intitulera Mozartienne.
Mozartienne. C'était un petit jeu de mots avec Martien, Martienne. Aimez-vous Mozart? C'est un peu dans cette idée-là.
Qu'on y entendra?
Alors, on entend la sonate en duo pour basson et violoncelle, qui est une sonate qui est assez rarement jouée, mais qui est charmante et que je trouve très fraîche et tout à fait adaptée pour une ouverture de concert. Parce que l'envie majeure, phare du concert, c'était de jouer le Grand Divertimento en trio à cordes, qui est une œuvre magistrale et absolument somptueuse de Mozart, qui dure une heure. Donc, au niveau de l'organisation de la soirée, c'était un petit peu... On ne pouvait pas mettre une œuvre trop longue avant. Et puis, ça sera un concert un petit peu particulier, parce que j'ai toujours à cœur de, comme je vous le disais, de parler avec mon public, de présenter les choses. Comme je serai très très occupée par mon morceau, je ne vais pas m'y atteler parce que c'est quand même deux métiers un peu différents que d'arriver à présenter une soirée et puis de jouer. Mais c'est Lionel Bor qui est donc bassoniste, qui est aussi compositeur et qui va donc décrypter un petit peu cette œuvre pour nous tout au long du concert. Donc je pense que nous couperons le divertimento en deux parties et qu'il y aura donc une présentation assez fournie et détaillée pour le public et avec une petite coupure au milieu pour... pouvoir nous souffler aussi et pour pouvoir aussi permettre au public d'appréhender l'ensemble de l'œuvre sans trop de longueur, on va dire. Voilà.
L'église en question, une acoustique assez particulière. Comment vous l'avez
C'est une église qui est rectangulaire.
L'église du 14e, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, mais c'est une église qui est rectangulaire. En fait, elle a une nef principale. Il y a deux petites absides, mais qui sont toutes petites, ce qui fait qu'on a une acoustique qui est très très bonne, en fait, parce que ça, le son ne part pas à l'autre bout de l'église. Et donc, on a juste ce qu'il faut de réverbération. Et c'est vraiment un endroit très très agréable au niveau de l'acoustique pour les musiciens. Ça, c'est sûr.
Donc le lendemain, le 31 juillet, oui. Chanson pauvre à rime riche,
oui,
tout
voilà.
Ça au pluriel.
Oui, alors avec un artiste qui s'appelle Tony Cello, ce qui est un violoncelliste et qui chante aussi. Donc c'est un spectacle que là, nous allons donner à la salle des fêtes d'à côté, d'une petite ville qui s'appelle Puy-l'Évêque. Voilà, parce que son contenu ne s'adaptait pas à une église. Voilà, donc c'est un spectacle humoristique. C'est pour la première fois on propose ce genre de spectacle à Montcabrier. Mais j'ai vu ce spectacle que je trouve tout à fait réjouissant, tout à fait adapté aussi à la région. Et c'est un violoncelliste qui va s'amuser de certaines chansons, grandes chansons françaises, Brel, Brassens. Il y a beaucoup de textes aussi de Bobby Lapointe qui sont retouchés, remaniés. Et c'est un parcours à travers ces chansons retouchées et puis aussi le parcours qu'est-ce qu'un musicien avec cette idée de désacralisation du moment du concert classique avec une adaptation que j'adore du poinçonneur des lilas qui s'appelle le cachetonneur. Tout un tas de petites choses comme ça, de petits gags aussi scéniques avec le violoncelliste qui se prend les pieds dans son pupitre. J'aime beaucoup ce spectacle et donc j'étais ravie que Tony Cello puisse venir cette année à Montcabrier.
C'est nécessaire ce genre de petits écarts par rapport dans la programmation, d'avoir un éclectisme comme ça, d'aller vers des musiciens un peu atypiques ou...
Alors nécessaire, je sais pas, moi j'ai été touchée par ce spectacle et donc je me suis dit on peut proposer ça à Montcabrier, je pense que ça va attirer les gens et que ça va être intéressant. On va voir, les retours, je les aurai au pot après le spectacle.
Le spectacle.
Voilà.
Donc cette année, on entendra aussi donc le 2 août, ce sera le 8 fait sa cuisine.
Oui, alors là, c'est une soirée un peu particulière. Comment j'ai programmé cette soirée? J'ai eu un désir de musiciens qui viennent déjà à Montcabrier depuis plusieurs années de jouer cette pièce qui s'appelle Les Citations d'Henri Dutilleux, qui est une pièce très particulière parce qu'elle demande un contrebassiste, un hautbois, un claveciniste et un percussionniste. Donc on est dans une configuration de musique de chambre complètement exceptionnelle et c'est ça qui m'a vraiment intéressée parce que je me suis dit je peux aller dans plein de directions possibles puisque j'ai ces instruments tous aussi intéressants et variés. Donc du coup j'ai fait une programmation autour de cette pièce où on entendra une pièce aussi pour marimba et hautbois, on entendra une pièce plus classique trio de Michael Haydn en ouverture, il y aura une pièce de Ligeti au clavecin, donc là aussi j'avais envie de proposer le clavecin mais pas dans son répertoire connu mais plus dans un répertoire un petit peu plus contemporain, une pièce de Ligeti qui s'appelle Hungarian Rock et puis enfin nous terminerons par des arrangements de Piazzolla, donc on est dans une soirée un petit peu anormale, mais c'est ça qui m'intéressait, voilà.
C'est ce genre d'événement que vous voulez éventuellement multiplier dans les années
prochaines ? Oui, j'aime bien ça, j'aime bien proposer des choses que peut-être on entend trop rarement ou ou peu, en tout cas, voilà.
Également sortir de mon cabrier et détendre un petit peu
oui,
voilà. Aux alentours, c'est aussi quelque chose.
Oui, c'est quelque chose.
C'est un besoin, c'est une envie.
C'est une envie. Là, cette année, avec la programmation Tonicello, on va toucher le public qui sera plus du côté de Puy-l'Évêque, qui est une petite ville. Donc là, on s'étend, on est content. On a aussi cette année la joie de participer à la soirée d'ouverture du 50e festival de théâtre du Château de Bonaguil. C'est un festival de théâtre très connu. La première soirée sera donc consacrée aux misanthropes de Molière avec Francis Huster. Et donc, nous faisons à 19h une petite mise en bouche musicale avec deux quatuors à cordes, un de Haydn et un de Mozart, dans la chapelle du château. Pourquoi on a fait ça? Parce que ce festival de Bonaguil était, il y a maintenant il a 50 ans, mais il y a 30 ans, était encore très très dédié à la musique. Et la nouvelle directrice du festival a eu envie cette année de renouer un petit peu avec ce passé musical. Et c'est vrai que moi, je suis tout à fait ravie de m'insérer dans cette dynamique. Voilà, il n'y a pas de conflit d'intérêt. On est dans une région où il y a de riches propositions culturelles. Et moi, ça m'intéresse vraiment demain de participer à une soirée où voilà, on mélange théâtre, musique. Et puis, les uns les autres vont apprendre à connaître à la fois le festival du 8 Domain Cabrier, qui a 5 ans, qui est tout petit, tout jeune, et qui fait son entrée dans un festival célèbre qui a 50 ans d'ancienneté.
Thank you.
que vous avez comme ça, j'imagine, chaque année, une sorte de gourmandise. Vous avez envie, sûrement pour l'année d'après, déjà avant même que cette oui. édition soit commencée ou même terminée, voilà. Vous avez déjà, j'imagine.
Oui, j'ai des envies. J'aimerais, alors évidemment, dans l'idée d'étendre, ça c'est une chose. J'ai envie aussi au niveau artistique, par exemple, j'aimerais beaucoup pouvoir faire venir un chanteur ou une chanteuse l'année prochaine, un peu étendre ma programmation au chant. Voilà, ça fait partie des projets pour l'année prochaine.
Comment vous vivez justement la double casquette, j'allais dire, organisatrice et musicienne? Alors, il y a certains festivals, effectivement, ouais. Qui ont comme directeur ou directrice artistique ouais. Des musiciens.
Oui.
Alors là, on avait eu l'autre Jean-Philippe Collard qui nous disait, avec sa nouvelle casquette de directeur artistique, ça avait un impact assez étonnant sur lui, sur son approche. En tant que musicien.
Ah ben bah complètement, c'est très intéressant, très riche. Alors je vous dis pas que ma casquette je la porte sans fatigue, hein. Je dirais que c'est absolument éprouvant, c'est une semaine terrible, mais c'est vrai que de passer de l'autre côté un peu de la barrière, c'est très très exaltant. Je suis programmée sur certains concerts, certains je ne joue pas du tout, et c'est vrai que de pouvoir, alors en connaissance de cause, connaître ce milieu du plateau artistique, vraiment pouvoir ménager mes artistes, les inviter dans les meilleures conditions, faire en sorte qu'ils soient vraiment bien pour donner le meilleur au moment de leur concert, c'est un truc, moi je trouve très intéressant, et c'est très enrichissant pour moi aussi.
Musicalement, j'allais dire même dans votre, ouais. dans votre parcours,
d'avoir ce recul,
de votre approche de la musique, de l'échange, etc.
Voilà, d'avoir ce recul, de se retrouver du côté public et de pouvoir se dire ça marche moins bien. Bien sûr que c'est très riche. Et moi, en tant que musicienne, ça m'apporte peut-être plus de simplicité aussi par rapport à mon métier, et puis moins de stress, moins d'angoisse. Voilà.
Quelle orchestre de Paris?
Alors l'orchestre de Paris, c'est encore autre chose. On est très 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 nombreux, mais oui, effectivement, c'est pas du tout la même approche. On est peut-être plus dans un plaisir immédiat et plus dans un don. Il y a un petit peu plus de générosité, je dirais, par ce contact si proche avec le public et puis les autres artistes.
Vous avez, en construisant ce festival chaque année, il y a des festivals, à vous, personnellement, qui vous ont marqué dans leur politique, dans leur direction artistique, dans leur approche, façon de présenter la musique?
Qu'est-ce que je dirais? Il y a eu des festivals auxquels j'ai participé en tant que musicienne qui m'ont moins touchée, justement, peut-être, où j'ai trouvé parfois des aspects un petit peu trop impersonnels. Donc c'est vrai que moi, mon festival s'inscrit dans autre chose. Après, bien sûr, y a toutes sortes de festivals, mais c'est vrai que ma vie musicale, je crois que mon cabrier pour ça est très important dans ce désir de transmission que j'ai et que j'ai peut-être pas suffisamment rencontré dans ma vie musicale, donc c'est aussi peut-être pour ça que je m'y inscris et je le fais vivre, hein. Et je crois qu'il y a aussi ce désir de au-delà de la grande institution Orchestre de Paris, on a évidemment des tas d'individus avec un potentiel et un talent énorme dans cet orchestre. Et c'est vrai que de par notre métier d'orchestre, on a finalement moins le temps et moins l'occasion de se produire en tant que chambriste ou soliste. Et ça m'a permis aussi de connaître mieux les membres de mon orchestre, de les connaître sous un autre angle. Et c'est très chouette. Et je sais qu'au début, j'avais moi mon désir d'inviter les gens, mais j'osais pas trop, tel soliste de l'orchestre, est-ce qu'éventuellement... Et puis en fait, là maintenant, j'ai plutôt des gens qui viennent me voir en me disant « Comment ? Je n'ai toujours pas été programmée dans ton festival, il faut absolument que tu m'invites, etc. » Donc ça aussi, c'était bien de pouvoir de voir les choses comme ça.
Comment, justement, parlez-nous un petit peu de ces 15 ans quand même déjà maintenant dans l'Orchestre de Paris.
Oui, oui. Comment ça passe,
comment on évolue là-dedans par rapport justement à la façon, au moment où arrive justement ce festival dans votre vie, dans cet orchestre. Mm-hmm. Comme vous le dites, d'une certaine manière, on se retrouve pour plein de musiciens. Donc j'imagine, mais à côté, on devient plus anonyme dans un groupe. On pense la musique en groupe, on le prend.
Oui. En fait, je crois que l'évolution, elle est individuelle, hein, pour chacun. Pour ma part, je suis rentrée très jeune à l'orchestre, donc je connaissais pas ce milieu de l'orchestre. Donc je me suis retrouvée dans ce grand groupe qui est une micro-société, on va dire, avec des gens de tous les âges, parce que toutes les générations sont confondues. Donc il faut arriver un petit peu à trouver sa place.
Des gentils, des méchants.
Oui, et puis globalement, beaucoup de gentils. ont beaucoup de gentils, mais c'est vrai que bah, quand on a 20 ans et qu'on rentre dans un groupe comme ça et que on a son collègue d'à côté qui dit enchanté, ça fait 25 ans que je suis à l'orchestre, bienvenue dans cette belle maison, on se dit oulala, comment ça va se passer. Et puis je crois qu'effectivement on a chacun un déroulé de carrière qui peut être différent. C'est vrai que moi la musique de chambre à côté a toujours fait partie de ma vie, ce qui est un peu, comme je vous l'expliquais, fait que j'ai développé le festival. Et puis ce qui est marrant, c'est que tout ce que je vous expliquais sur cette idée de transmission, d'un petit peu chérir mon public, en tout cas le choyer, je sais que maintenant l'Orchestre de Paris, une politique notamment médiation culturelle qui est très développée, sur laquelle je suis pas mal investie aussi, et je me rends compte que ben, l'une et l'autre des structures, que ça soit le festival, l'orchestre, tout ça s'enrichit. Et on a maintenant des concerts pour lesquels on travaille une présentation bien particulière, que ça soit pour les enfants ou pour les enfants et leurs parents le samedi matin. Et ça, je crois que c'est quand même l'avenir hein, du concert. On évolue et on va vers un public qui aura des propositions un peu différentes.
Ce besoin de transmission, c'est quelque chose que vous avez eu en vous depuis toujours, ou c'est venu progressivement ?
C'est venu progressivement, je dirais. C'est venu progressivement. Je crois que mon cabriolet a été un vrai déclic, parce que j'ai senti en face, de par la facilité de contact avec les gens qui venaient au concert, vraiment des gens qui étaient des fois tellement touchés, ou qui venaient remercier vraiment pour le moment qu'ils avaient passé, ou les gens qui remerciaient d'avoir eu cette nouveauté dans leur vie, je dirais. Donc ça, c'est venu comme ça. Puis c'est venu après par un peu d'enseignement aussi, par contact avec les enfants, tout ça. Et c'est vrai que ça me semble absolument essentiel à ma vie de musicienne aujourd'hui. Je ne peux plus concevoir le moment du concert comme étant, moi, l'artiste éloignée, loin, froide, intouchable, insensible, derrière son costume noir. C'est impossible. J'ai vraiment besoin de sentir le public, de sentir les gens qui sont là. Voilà.
En termes de préparation, j'imagine que, première vue, on se dit un petit festival dans un petit village perdu, ça doit prendre 2 minutes 30 à organiser, non. Mais ça doit sans doute pas être le cas,
non,
j'imagine.
Non, c'est très long, parce qu'il faut déjà que j'élabore ma programmation artistique, donc ça, il faut que ça soit fait dès le festival est en août, dès septembre-octobre, il faut que j'y réfléchisse, avec évidemment tout ce qui s'ensuit, la diffusion de la programmation, trouver mes artistes, être sûr qu'ils soient libres aux dates prévues, et puis ensuite, on a le bureau de l'association qui se réunit régulièrement, voilà, là, demain, je descends à mon cabriolet. On a une réunion pour dire qui reçoit tel artiste de tel jour à tel jour. Lui arrive à telle heure au train, qui va le chercher. On a tout le matériel de percussion à aller chercher au conservatoire de Cahors qui nous a gracieusement prêté ça. Je les remercie encore beaucoup parce que ça a été une affaire assez compliquée. Il faut trouver un camion pour transporter tout ça. Qui va le faire parce que c'est le jour d'un concert. Donc moi, je serai en train de répéter. Donc je ne pourrai pas m'en occuper, donc il faut trouver des gens qui aient des bras pour porter tout ça. Il y a l'intendance journalière, parce qu'on nourrit et on héberge tous les musiciens. Donc chaque jour, ils font un grand repas en fonction du nombre de musiciens qui sera là. L'organisation aussi de la dernière soirée, où il y a un immense repas où on reçoit à peu près, immense. Pour moi, c'est immense. Il faut faire à manger pour 200 personnes. C'est quand même beaucoup. Donc pareil, il faut tout installer. Il faut, dès 5 heures du matin, être prêt à aller éplucher des carottes et faire des salades. Voilà, donc tout ça, non, c'est pas 2 minutes 30. C'est vraiment des heures et des heures de travail.
Est-ce que dans ces périodes de crise, ou en général en période de crise, la culture boit la tasse souvent en premier ?
Oui.
Est-ce que c'est encore plus difficile ?
Alors, on l'a ressenti l'année dernière, je crois. Je dois dire au niveau de la fréquentation, c'était inégal. On a eu quelques concerts. Alors, on peut toujours se dire que c'est la programmation. Un concert en piano solo, récital de piano, ça attire moins les gens. Pour autant, je pense vraiment que la crise est là. Et que justement, une manifestation avec un grand repas au milieu pour 20 euros, les gens viennent. Et là, par contre, on a fait vraiment carton plein. Je dois dire que l'église était prête à exploser. On avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc, je crois que ça a compté, mais c'est un ensemble de choses. Il y a moyen d'aménager les choses pour faire venir les gens.
Surtout qu'en plus, vous insistez sur le fait d'avoir une politique de prix plutôt bas pour essayer de faire venir.
Les prix sont à 13 euros, c'est gratuit pour les enfants. La soirée donc, du dernier cette année est à 25 euros. Il y a deux concerts plus un repas, donc c'est tout à fait accessible. C'est 5 euros pour les enfants. Oui, je ne me vois pas m'intégrer à mon cabriolet en proposant des tarifs de concert à 25 euros. Ce ne serait pas possible.
Bien, donc je rappelle que ce festival Le Huit de Montcabriolet se déroulera cette année du 30 juillet au 4 août. Merci Marie Poulange.
Merci à vous.
Rencontre par Marc Zisman.